en haut de la page du Dalet pour ceux qui ont le tanya rouge. Et la page 100, non. On est à la page, j'ai dit 108. Voilà, t'as mis le, voilà. Voilà, la note de sauté, voilà. Page 108, et là. Je fais un résumé rapide où on en est. Donc là, actuellement, dans le Tanya, on a expliqué, dans les chapitres précédents, on a eu l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est l'âme divine et la puissance qu'avait, messieurs s'il vous plaît, la puissance qu'avait l'âme divine. Et là, dans le chapitre 6, on s'est lancé dans une notion qui est très compliquée, qui est même pas facile. On parle plus du tout de l'âme divine, on parle maintenant de l'âme animale. L'âme animale, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait qu'on mange, qu'on dort, qu'on boit, qu'on respire, qu'on entend, qu'on parle, d'accord? Qu'on se dispute, qu'on discute. Tout ce qu'on fait la journée, c'est géré par l'âme animale. Parce que quand on réfléchit finalement, on le fait comme des animaux. De la même manière qu'un animal, il mange, il dort, il boit. De la même manière, nous aussi, on mange, on dort, on boit, on discute, on a des émotions, etc. Alors, on a expliqué dans les deux cours précédents, une notion qu'on a répétée plusieurs fois. Que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qu'en fait, il y a trois domaines. Il y a le domaine de la Kedusha, le domaine de l'impureté et tout ce qui est neutre. On a expliqué que d'après la Kabbalah, il n'y a pas trois domaines, il y a deux domaines. Il y a la Kedusha, ce qui est lié à Dieu, et ce qui n'est pas lié à Dieu. Et là, on est rentré dans une grande, grande définition, qu'on va développer, Bezrat Hashem, surtout dans le chapitre 7, que beaucoup de gens pensent que c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est les mitzvot. Tout ce qui n'est pas les mitzvot, c'est pas la Kedusha. Et là, vient une grande nouveauté de la Chassidoute, qu'on va développer, qui va t'expliquer, qui va dire, pas du tout, la Kedusha, c'est pas spécialement lié aux mitzvot. La Kedusha, c'est quand je fais quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je peux être là en train de manger, en train d'aller en vacances, en train de parler, quelque chose qui n'a rien à voir avec une mitzvah. Et comme je le fais pour Akadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle, comme je le fais pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle que je suis en train de faire une mitzvah. Alors, j'ai raconté une histoire, Shabbat après-midi, donc au cours Shabbat après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais la répéter encore une fois, je pense que c'est une très belle histoire pour illustrer ce que je suis en train de dire ici. C'est une histoire avec une fois un maître qui a posé la question à Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Il a dit, j'aimerais savoir qui est mon voisin au Gan Eden. Qui est mon voisin au Gan Eden? Donc je l'ai raconté, il y a ici la moitié qui la connaissent déjà, mais je vais la répéter. Et donc il pose la question, il dit, qui est mon voisin au Gan Eden? Alors du ciel, on lui donne la réponse, on lui dit, ton voisin au Gan Eden, il habite dans telle et telle ville, d'accord? Et il s'appelle monsieur, on va l'appeler Mordechai. Bon, donc lui comme Baruch Hashem c'est un très bon juif, c'est même un tzaddik. Donc il s'attend, quand il arrive là-bas dans la ville, il s'attend à trouver un grand tzaddik. Donc il débarque dans la ville, c'est un petit village, et il dit, bonjour, je cherche Rabbi Mordechai. Alors on lui dit, désolé, il n'y a pas de Rabbi Mordechai ici. Alors il dit, bon, alors on va chercher, peut-être qu'il se cache, c'est peut-être en plus, c'est pas seulement un tzaddik, c'est peut-être un tzaddik nistar, un tzaddik caché. Alors il dit, recensez-moi tous les Mordechai qu'il y a. Et on lui répond, on lui dit, écoutez, c'est pas compliqué, il n'y a pas 10 000 Mordechai dans la communauté, il y a un seul Mordechai. Donc, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, ben voilà, ce Mordechai, il habite là, dans une petite maison, dans un coin. Donc il va là-bas, il s'attend à voir un grand sadique qui vit dans la misère, en train de souffrir, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il voit un monsieur en train de manger. Bon, il mange, qu'est-ce qu'il y a? Mais il mange un peu comme un glouton. Bon, il dit rien. Alors il attend un peu, l'autre il mange. Et après, il commence à lui parler, il lui dit bonjour, est-ce que ça vous dérange pas s'il se passe quelques jours chez vous? Il n'y a pas de problème, venez, voilà, prenez un lit. Et le tzaddik qui se dit certainement que cette personne-là en vérité il cache son jeu, ça doit être un grand tzaddik, c'est pas possible. Dans le ciel on m'a dit que c'est mon voisin. À moins que moi je suis un rachat, mais c'est pas possible. Et il essaye de sonder ce que fait l'autre. Et il voit que l'autre toute la journée il arrête pas de manger. Et il mange, toute la journée. Alors il se dit peut-être la nuit il étudie la Torah, je sais pas, il doit avoir un truc. Donc du coup le rave il a pas dormi la nuit pour surveiller, pour épier, pour voir est-ce que l'autre vraiment, peut-être que la nuit il fait quelque chose. Il a pas dormi de la nuit et l'autre a très bien dormi. Donc c'est rien passé pendant la nuit, l'autre il ronflait, il dormait, etc. Et donc du coup ce qui se passe c'est que le rave au bout de 3 jours il en peut plus et il en peut plus, il a pas dormi, etc. Il a fait qu'épier l'autre. Il lui dit écoutez. Voilà, bon, voilà, j'ai fait un rêve. Voilà, je vais tout vous dire directement. J'ai fait un rêve et on m'a dit que vous êtes mon voisin au Gan Eden. Alors dites-moi directement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait. Comme ça, on collabore au moins, on fait quelque chose ensemble. Alors ce monsieur lui dit, mais je sais pas ce que vous me voulez. Moi, je suis ni rabbin, ni fils de rabbin. Laissez-moi tranquille. Alors, Le rabbi lui dit, je vous donne une xéra. Je suis rabbin, je vous donne une xéra, vous devez me dire. Il dit, mais je vous jure, il n'y a rien, j'ai rien du tout, qu'est-ce que vous voulez, laissez-moi tranquille. Alors là, à ce moment-là, le rabbin, il dit, mais c'est pas possible, pourquoi il mange tellement, ce monsieur? Et hop, et il remange. Alors il lui pose des questions, il lui dit, pourquoi tu manges tellement? Il dit, je vais vous raconter pourquoi je mange. Il dit, parce que, quand j'étais petit, j'ai vu comment on a pris mon père. On a pris mon père, il y a des brigands, il y a plusieurs versions dans la suite de l'histoire. J'ai vu comment on a pris mon père. On l'a ligoté. D'accord? Des brigands, des petits jeunes, des adolescents, ils ont pris mon père, ils l'ont ligoté, ils l'ont massacré de coups, ils l'ont mis autour d'un arbre, et il a même pas eu le temps de lire son schéma Israël que déjà ils l'ont brûlé, il est parti. Alors, moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais petit, j'ai vu ça, je me suis dit, moi, quand je serai grand, si un jour quelqu'un il va me frapper, je voudrais pouvoir me défendre. Et même si je vais pas pouvoir me défendre, je veux qu'au moins, si on me brûle, j'ai le temps de faire le schéma Israël. Et c'est pour ça que je mange beaucoup. Alors là, quand le rav a entendu ça, il a dit, mais tu t'imagines? Ça veut dire que chaque bouchée qu'il est en train de prendre, il le fait les Shem Shamaim, il le fait pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a envie de mourir comme un juif. Tellement il a le traumatisme de ce qui s'est passé avec son père, ça peut se comprendre. C'est que dans sa tête, il mange pour se dire, si un jour on va m'embêter, je vais pouvoir me défendre. Et là, le Rav, quand il a entendu ça, il a compris pourquoi cette personne-là, elle aide son voisin au Gan Eden. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour montrer qu'en vérité, dans la définition de la chassidoute, on explique que le bien et le mal, la définition du bien et du mal, c'est pas les mitzvot et les avérotes. Il y a aussi les mitzvot et les avérotes. Le bien et le mal, c'est ce qui est pour Akadosh Baruch Hu et ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est la seule définition qu'on a. Ce qui est pour Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on va développer longuement ici. Que quand on parle du mal, il y aura différentes catégories de choses. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, que je mange ce cracker qui est devant moi. Est-ce que je le mange pour Dieu? Non. Mais est-ce qu'il est cachère?
Oui.
Oui, il est cachère.
Non.
D'accord? Alors, finalement, dans 20 secondes, écoutez la question. Si tu me dis que de toutes les façons, je le mange pour moi, je le mange pas pour Dieu, alors quelle différence entre ce cracker s'il est cachère ou un autre cracker qui n'est pas cachère? Parce que tu me dis de toutes les façons, quand c'est pas pour Dieu, tu m'as appelé ça du mal. C'est pour ça qu'on va devoir rentrer dans une nouvelle définition à partir d'aujourd'hui. Pour expliquer que dans ce qui n'est pas du côté d'Akadosh Baruch Hu, il y a ce qui est pour Dieu. Ça, c'est d'emblée pour Akadosh Baruch Hu. Dans ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, il y a deux catégories. Il y a ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère. Et on va expliquer, Bezrat Hashem, dans la suite, que les choses qui sont cachères, même si temporairement, ils peuvent être loin d'Akadosh Baruch Hu, mais on peut toujours les récupérer. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera à ça dans la suite du chapitre 7, c'est pour ça que je vais vous le dire maintenant, que dans le chapitre 7, il nous fera remarquer, certainement les vétérans du cours de Tania se rappellent, on avait expliqué que c'est quoi la traduction en hébreu de kasher, d'accord, et pas kasher, ou bien moutard et assour. Vous vous rappelez? D'accord? Certainement, je vais rappeler. On avait dit, par exemple, je vais dire directement moutard et assour. Assour en hébreu, ça veut dire quoi?
Interdit.
Interdit. Moutard, ça veut dire quoi?
Permis.
Permis. Pourquoi on appelle moutard permis et pourquoi on appelle assour interdit? La réponse est très simple. Assour, ça veut dire enchaîné. Je vais expliquer tout de suite le rapport. Moutard, ça veut dire délié. Assour, c'est comme bêta assourim en hébreu, c'est quoi? C'est une prison. D'accord? Moutard, c'est quoi? Délié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te dit qu'un objet est assour, ça veut dire qu'il est lié, il est enchaîné. Que comme il est enchaîné, l'énergie qu'il y a dedans, elle est enchaînée, que même si tu vas faire 100 000 brachot dessus, il pourra jamais monter chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est enchaîné. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Alors que quand un objet est moutard, il est délié, même si temporairement je ne l'ai pas mangé pour Akadosh Baruch Hu, mais comme il est délié, donc je peux, avec une bonne kavana après, je peux le récupérer pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Mais ce que je veux qu'on retienne déjà pour l'instant, une définition très simple que tout le monde peut retenir, c'est que il faut pas s'arrêter, c'est pas blanc et noir, il faut pas s'arrêter de dire j'ai fait une mitzvah, j'ai pas fait une mitzvah. Dans chaque chose qu'on peut faire, même quand je vais au boulot, quand je mange, quand je dors, quand je bois, je dois me poser la question, est-ce que je l'ai fait pour Dieu ou est-ce que je l'ai pas fait pour Akadosh Baruch Hu? Je fais toujours remarquer que quand on lit le Shulchan Aruch, et je sais que quand on enseignait le Shulchan Aruch, ça a toujours choqué, qu'il y a même des halachot quand on va aux toilettes. Vous savez ça? Il y a même des halachot quand on va aux toilettes. Quand on va aux toilettes. Comment on est assis aux toilettes et comment, etc. D'accord? Non, sérieusement. Et j'oublierai jamais quand on avait commencé à étudier le Mishnah Brura. Quand on avait commencé à étudier le Mishnah Brura, j'oublierai jamais la réaction que plusieurs avaient eue. On était encore dans l'ancien local là-bas. Vraiment, j'oublierai jamais quand plusieurs me regardaient. Ils me prenaient presque pour un maboule. Tu vois? Comme ça m'arrivait. Il va nous sortir des halachot des toilettes. Des halachot des toilettes. ça a l'air tellement incompatible, les halachot pour les toilettes. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en vérité, un juif, Un juif, toute sa vie est autour d'Akadosh Baruch Hu. Même quand il va aux toilettes, il peut servir Akadosh Baruch Hu dans les toilettes. Il y a aucun élément de ma vie qui est à part Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qu'on va essayer de rentrer maintenant. On va essayer de rentrer un petit peu dans le côté du mal. Le côté du bien, on l'a expliqué. Tout ce qui est pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans le côté du mal, on va expliquer que dans le côté du mal, il y a ce qui est irrécupérable. Il y a des choses qui sont récupérables. Ce qui est irrécupérable, c'est comme le morceau de cochon. Imaginez la scène suivante. Imaginez un tzaddik qui prend un morceau de cochon et qui fait dessus 100 000 brachot avec 100 000 kavanot. Qu'est-ce qui va se passer avec ce morceau de cochon? Hein, qu'est-ce qu'il en pense, Serge? Il fait des kavanot, il fait des brachot et tout dessus. Qu'est-ce qui va se passer avec ce morceau de cochon?
Hein?
Y a rien. Pourquoi? Parce qu'il enchaîne, il est bloqué. Tu comprends? C'est comme si t'as un gros moteur. Mais la voiture, elle enchaînée, t'as beau accélérer, il n'y a rien, ça bouge pas, c'est bloqué, c'est enchaîné, il n'y a rien à faire. C'est ça, assour. Assour, ça veut dire c'est enchaîné, c'est bloqué. D'accord? Ce qu'il va expliquer ici maintenant. Donc on est à Ella, chez Aklipot. Là, on va rentrer un peu dans les détails. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, on marquera des pauses. Ella seulement. Chez Aklipot, Nechlakot, En Nechlakot, Bederekla, Lichte, Madrigot. Quand on parle du mal, il y a le bien, ça on l'a expliqué, c'est tout ce qui est fait pour Dieu. Mais quand on parle du mal, il y a deux grandes catégories. À Madriga et Tartona, le niveau le plus bas, Hen, Shalosh, Klipot, Atimot, Viraot, Legamre. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, les trois Klipot. Pourquoi trois, je rentrerai pas dedans? Mais c'est ce qu'on appelle les trois Klipot. Trois Klipot, ça veut dire les trois forces du mal. Ve'en, Ba'em, Tov, Klal. Ça, c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas du tout de bien. C'est irrécupérable, il n'y a rien à faire. C'est comme le mal. D'accord? C'est comme, par exemple, manger quelque chose de pas cachère, faire une avéra. C'est irrécupérable. Si la Torah dit que c'est interdit, c'est que c'est interdit. Il n'y a rien à faire. Et pas où aller. C'est assourd, ça veut dire que c'est, il n'y a rien. Il n'y a que du mal dedans. Venikru bimerkavat yecheskel, ruar seara vanan gadol. Bon, ça, je rentre pas dedans, dans la prophétie d'Ézéchiel. D'accord? Là-bas, il explique à quoi ça correspond, ces trois, mais c'est pas le but aujourd'hui. Umehem nishpaot venipshachot nafshot kol umot haolam. C'est de ça que va venir nafshot, les âmes, Kol umat olam de toutes les nations. Vous vous rappelez certainement ce qu'on avait expliqué au début, à la fin du premier chapitre. Quelque chose de pas facile à comprendre, mais je pense que tout le monde peut l'accepter. On avait expliqué que l'homme, par définition, est égoïste. Et qu'un homme, tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. Il fait jamais par l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est les hommes, comment l'homme a été créé. Mais Dieu a donné une capacité particulière aux juifs, exclusivement aux juifs, qu'un juif est capable de faire le bien parce qu'il est bien. S'il veut. S'il veut pas, il est comme tout le monde. Alors, chez un non-juif, c'est impossible. Il n'est pas conçu comme ça. Mais encore une fois, c'est pas une tâche, c'est pas un défaut, c'est pas un problème. C'est comme ça que l'homme est fait. L'homme, la base de l'homme, c'est l'ego. Il faut savoir quelque chose de très important, c'est que dans chaque chose qu'on fait, on cherche un intérêt. Pourquoi je me marie? Pour un intérêt. Pourquoi j'ai des enfants? Pour un intérêt. Il y a toujours un intérêt. L'intérêt peut être noble. J'ai pas dit que l'intérêt est quelque chose de grossier, quelque chose de pas joli. Mais il y a toujours un intérêt. Donc un intérêt, ça veut dire qu'il y a une raison pour moi. Et là, ce qui t'explique ici, d'accord? On s'arrêtera après dessus. Ce qui dit qu'en fait, on a une première catégorie dans le mal qui est tout ce qui est irrécupérable. C'est-à-dire, c'est du mal, il n'y a rien à faire. Venafshot kol ba'alechaim matmeri va'asurim ba'achila. Ainsi, dans cette catégorie du mal, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans cette même catégorie? Vous pouvez mettre également la vitalité de tous les animaux interdits. Vous prenez les reptiles, vous prenez le cochon, vous prenez tous les animaux pas cachés. Vekiyum gufam. Quand ils vivent, s'ils vivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énergie dedans. Cette énergie-là, d'où elle vient? Ça, c'est ce qu'on appelle les forces du mal. Vekiyum vechayot kol ma'achalot asurot ma'atsomeach. Mais on parle pas que les animaux. Même dans le végétal, il y a différentes choses qui nous sont interdites. Par exemple. Kemo orla. C'est quoi la orla? Quand on plante un arbre, les trois premières années, on n'a pas le droit de consommer les fruits. En Israël. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est pas qu'en Israël. Les trois premières années. Donc, ces trois premières années, les fruits sont interdits. Il y a des fruits qui ont poussé, mais ils sont interdits. Si je les mange, je fais une bracha dessus. On te dit, il y a rien à faire. On te dit que c'est assourd, ça veut dire que c'est enchaîné, ça veut dire que c'est lié, ça veut dire que c'est du mal, c'est irrécupérable, il n'y a rien à faire. C'est tout. Deux secondes, je finis d'abord juste la fin du paragraphe. Deux secondes. D'accord? Vu qu'il est à Kerem, ainsi que, vous avez un autre interdit qui est lié au végétal, qu'il est à Kerem. Si vous avez par exemple, qu'il aïm, des greffes. Les greffes interdites. On n'a pas le droit de greffer deux espèces différentes. On a greffé en Israël. D'accord? Pareil, ça veut dire la greffe est interdite. T'as beau dire j'ai qu'à faire 1000 kavanot, je vais avec ça, avec l'argent que je vais récupérer, je vais donner la tzakot, ce que tu veux. On te dit c'est assourd, c'est fini. Qu'il a qu'un. Non, il y a des greffes en Israël. Les greffes qui ont été faites initialement en Israël. Moi, je sais que tout. C'est un problème, les greffes. Non, je parle des greffes végétales en Israël, c'est assourd. C'est interdit.
Les fruits, il y en a plein, des fruits. Ils ont fait plein de fruits.
Et... Non, ils ont fait des variantes. Non, non, des greffes, les greffes.
Ils ont greffé le raisin blanc et le raisin noir en même temps sur la même branche.
C'est pas la même chose. Non, c'est les deux, la même espèce. Ouais. D'accord? Je te parle une greffe. Par exemple, on va greffer la pomme et, ouais. On va greffer la pomme et la poire. Bon, mais attendez, s'il vous plaît, on va finir le chapitre. Ouais. Donc, moi, chez Katouf, comme deux secondes. S'il vous plaît, on va finir le chapitre. Retenez vos questions, on va faire une pause, vous poserez toutes les questions. Il en est de même. Kiyum vechayut kol amaase dibur marshava shel kol shin samech el otaase. Il en est de même. Pour toutes les choses que la Torah dit que c'est interdit. Toutes les 365 mitzvot négatives que la Torah dit que c'est interdit. Ve'anfem et tous leurs dérivés. Kumoshikatuv sham sof perakhe. Comme c'est écrit là-bas, d'accord, dans le commentaire de Rabbi Chaim Vital, il te dit clairement que quand la Torah dit c'est assour, c'est assour. Même s'il y a une personne qui va dire, mais bon, moi je fais une avéra, mais tu comprends, mais après par derrière je vais récupérer une mitzvah. Il n'y a pas. La Torah dit c'est assour, c'est assour. Je vous donne un exemple classique. Un exemple qu'on a ramené Shabbat. Imaginez par exemple une personne qui habite à 10 km de la synagogue. Il n'y a pas de synagogue à côté de chez lui. Et qui dit, voilà, je vais prendre la voiture pour aller à la synagogue. Je vais gagner 15 mitzvot. Je vais venir là-bas, je vais écouter un Dvar Torah, je vais écouter la Torah, je vais faire ma prière, je vais répondre Kaddish, d'accord? Shabbat, hein. Tout! C'est Shabbat, bien sûr. D'accord? Je vais tout faire! Mais je prends la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'ai fait une petite avéra, de l'autre côté, j'ai récupéré 10. Je suis gagnant, on change. Comme ça, on peut penser. Eh ben, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, non, ça marche pas comme ça. On te dit, c'est pas quelque chose avec lequel tu peux discuter. Quand la Torah dit que c'est du mal, c'est que c'est du mal. On peut pas discuter avec ça. La Torah dit c'est assourd. Même si c'est du mal pour un bien, ça s'appelle mitzvah abba avera, une mitzvah qui vient en passant par une avera, c'est assour. C'est-à-dire que là, on va finir avec ça, ce chapitre-là, après on passe au chapitre suivant, donc là on va faire une pause pour les questions. On a ici la première définition du mal. Première définition du mal, c'est le mal absolu, c'est ce qui est irrécupérable. C'est mal, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à tirer. D'accord? Et dans la vie, il y a aussi des choses comme ça. Comme vous prenez par exemple l'autre là-bas, Ahmadinejad, vous prenez je sais pas qui vous voulez. Il y a des éléments qui marchent mot. Bien sûr, il faut le dire, c'est la semaine de Pourim. Il marche mot. Dites-le, répétez. Alors, dites amen. Alors, mais c'est vrai, c'est la semaine de Pourim. On est fort ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? D'accord? C'est pas par hasard qu'ils ont raisonné un bateau le mois de Hadar. C'est le mois de Hadar, c'est écrit la Gemara dit, c'est un mois dans lequel on est fort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que, dans le bien, c'est tout ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu. Dans le mal, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est quoi? C'est le mal. Le mal absolu, le mal irrécupérable, comme tout ce qu'on a dit. Comme les animaux interdits, comme toutes les végétations interdites, comme les exemples qu'on a donnés. Comme, il va rajouter aussi, toutes les paroles, pensées qu'on peut avoir qui sont interdites. Une personne va dire, je vais avoir une mauvaise pensée, mais ça va me calmer. Il n'y a pas, la Torah dit, c'est assourd. Personne dit, oui, je vais dire un gros mot, je vais me lâcher. Il y a pas, la Torah t'a interdit, c'est assourd. C'est-à-dire que quand la Torah, ou bien je vais dire un lachanara, mais ça va, bon, je me suis lâché. Ça n'existe pas, il n'y a pas. La Torah a dit que c'est assourd. C'est-à-dire quand c'est du mal, il n'y a rien à tirer. Et c'est là qu'on va passer après au deuxième chapitre, dans lequel on va parler de certaines choses dans la vie, qui sont cachères, mais qui peuvent être mauvaises temporairement. Comme par exemple, je vous donne tout de suite un petit preview, mais on va le développer. Comme par exemple, la gloutonnerie. Gloutonnerie, un glouton. Il peut manger des aliments cachers, mais il mange, on dirait qu'il n'a jamais mangé de sa vie. Il a mangé cachère, tu peux rien lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien, vous avez des gens, des fois, qui sont dans le cachère, ils restent dans la loi, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas fait d'avéra, mais on sent qu'il y a un problème. On sent que c'est tordu, ce qu'ils font. Donc là, on va passer dans une deuxième catégorie du mal, qui sont les choses qui sont récupérables. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais avant de passer à cette deuxième catégorie, je vois qu'il y a plusieurs questions, donc on va faire une pause pour les questions. Alors, allez-y, bichavod. Allez.
Tu parlais des fruits greffés.
Oui.
Une spécialité,
alors, les fruits greffés, ça dépend. Quand on greffe deux espèces de la même espèce, voilà, la clémentine et l'orange, c'est deux espèces qui sont de la même espèce. Ah. Et si on prend, par exemple, une pomme et une poire, on fait avec ça un brugnon, c'est ça? Non, c'est quoi le brugnon? Le brugnon, c'est la pêche et abricot. Pêche et abricot. Ça, c'est assourd. Parce que deux espèces. Par contre, une fois que ça a déjà été fait en dehors d'Eretz Israël. C'est une bonne question.
Mais non, ils ont pas.
Non, mais je parle pas de tomates cerises, je parle de ta question. Mais non. Ils ont modifié déjà. D'accord.
Excusez-moi, je vais juste pousser un peu les tables.
Oui, allez-y.
Un tout petit peu.
Voilà. Mais une fois que la greffe a déjà été faite, imaginez par exemple qu'on a mélangé, on fait le brugnon, on mélange.
La pêche et
l'abricot. Si donc maintenant le brugnon a été fait, imaginons qu'il a été fait, la première greffe a été faite en France. On a le droit de récupérer un brugnon et d'en refaire en Israël. Ça c'est permis. Parce que l'interdiction de la Torah, c'est de faire une nouvelle greffe. Mais en tout cas, la première greffe, celle qui est interdite, elle est assourde. Il n'y a rien à faire, c'est assourde, c'est fini. C'est ce qu'on appelle le mal absolu qui est irrécupérable. Un morceau de cochon, c'est pas cachère, il n'y a rien à faire, c'est fini, c'est interdit.
Même si on le croise avec une bête.
Il n'y a rien à faire.
Oui. Tu as posé la question, tu arrives, tu vois un arbre, tu prends un fouillis, tu sais pas qu'il a pas 3 ans.
Tu vois par rapport à la taille. Je veux marcher, des fruits, comment je sais qu'il vient d'un arbre qui a
D'abord, c'est pour ça que quand vous allez en Israël, c'est important, quand vous allez en vacances en Israël, c'est important de faire attention que l'endroit où vous achetez les fruits, qu'il y ait une Théouda. Vous remarquerez en Israël, il y a des Théoudas dans les rayons de fruits et légumes, même dans les supermarchés qui ne sont pas spécialement religieux. Il y en a où il n'y a pas, mais il y a beaucoup où il y a, même à Eilat, hein, partout. Il y a une Théouda. Après, il y a différents Hashgaha, mais il y a une Théouda. Il y a une certification qui dit que c'est cachère et que la Terouma et le Maaser ont été prélevés parce que c'est très compliqué en Israël. En Israël, c'est très compliqué. S'il n'y a pas un rabbin qui est passé par derrière, on peut faire des Averot de la Torah. C'est très compliqué.
Mais ici, on peut manger ce fruit-là qui est greffé.
Quoi?
Ici, on peut le manger s'il est greffé.
Oui, en France, oui. Non, d'accord. En passant, l'année prochaine, ce sera une année de Shemitah.
Oui.
D'accord.
Mais là, c'est pour tout.
Voilà. Ah oui. Pour la Shemitah, il y aura des halachot. C'est pas facile, la Shemitah. La Shemitah, c'est des halachot compliqués.
Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui est juste attribué aux Juifs.
Oui. Ce que j'ai dit, c'est la capacité de faire le bien pour le bien, parce que c'est le bien, sans tirer aucun profit de ça. C'est une chose qui, normalement, est contraire à la nature humaine. Parce que l'homme, par sa définition, est égoïste. Pas dans le sens négatif du terme, dans le sens que il doit tirer un intérêt. C'est sa nature, c'est comme ça qu'on est créé. Ouais. Les hommes, les animaux doivent tirer un intérêt. Seulement, Dieu a donné la capacité à un juif de faire la tzedaka sans tirer aucun intérêt. Je dis pas qu'on le fait, mais on peut le faire. Oui. C'est-à-dire même pas l'intérêt du kavod, même pas l'intérêt de se dire un jour j'aurai le Gan Eden, rien. C'est une capacité que Dieu a donnée uniquement aux juifs.
Oui, mais les autres...
On avait dit que les justes parmi les nations, eux, sur ça, ils sont comme les juifs.
Mais les autres aussi, ils font la tzedaka. Comment elle s'appelle, là, la femme là, qui était en Égypte, la sœur, je ne sais pas.
Oui, bon, on ne donne pas son nom, d'accord, oui.
Toute sa vie, elle a fait ça.
Très bien.
Le prêtre catholique, il est dévoué à Dieu, et pas marié.
Bon, ça ne me parlait pas de ça, parce que si je veux commencer à parler... Bon.
Non, mais alors, je veux dire par là, donc c'est non, pas non, uniquement...
C'est pour ça qu'ils avaient fait remarquer Michael qu'on avait expliqué qu'il y a ce qu'on appelle les justes parmi les nations, et les justes parmi les nations, c'est l'exception qui confirme la règle.
D'accord. Enfin, il y en a beaucoup chez eux aussi.
Il y en a pas. Ouais, allez-y.
Pour 7 milliards d'habitants, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Après, un intérêt peut être un intérêt noble. Par exemple, l'intérêt de se dire que moi, j'ai fait quelque chose, que grâce à moi, tu comprends, mais c'est un intérêt. Mais attention, c'est pas une tâche que je suis en train de dire. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on est top. C'est comme, l'homme est comme... Et honnêtement, si on est honnête avec nous-mêmes, la majorité du temps, nous aussi, on est comme ça. On est comme ça.
Mais l'homme, il est comme ça.
L'homme est comme ça. Seulement, le juif a la capacité, s'il veut, et s'il force, s'il fait des efforts très durs, pas forcément qu'ils vont porter leurs fruits, mais c'est possible. Le juif a cette capacité de le faire sans intérêt. Même. Mais honnêtement, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. D'accord. C'est pas du tout le thème d'aujourd'hui. Oui.
Mais quand tu as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas prendre les premiers fruits.
Oui.
Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils étaient assourds.
Oui.
Et après, ils sont
déjà... Ah non, ces fruits-là, ils sont jamais permis. Les fruits des 3 premières années, ils seront toujours interdits.
Après les 3 premières années.
Oui. Mais pendant les 3 premières années, les fruits qui ont poussé, il n'y a rien à faire. Ils sont assourds ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien à faire. Ils sont assourds.
Ah, et après, ils
vont
mourir, après,
on peut rien faire avec.
Même si tu les convaincs.
Il peut les vendre.
Non, on
n'a
pas le droit
de
les
vendre. On n'a pas le droit.
Allez-y.
Mais quelqu'un peut servir.
Même pas
non, non, rien, on peut rien faire avec. On peut pas. Trois premières années, on peut rien faire avec. Même pas, c'est même Assurbana. Rien. Vas-y.
Tu peux pas les manger. On peut pas les vendre.
Attends, j'attends, j'en comprends pas la question. Oui. Oui. Ça correspond à ce qu'on avait dit à la fin du chapitre 1.
Les
Shiva
Mitzvot de Noir, il n'y a rien à tirer de...
Non, quand on dit Raïm, ça ne veut pas dire que c'est mauvais qu'il n'y a rien à tirer. Quand on dit Raïm...
Les gamres.
Oui.
Raot, les gamres, c'est-à-dire que c'est comme mal.
Mais encore une fois, parce que en se basant sur la définition du mal qu'on a donnée la semaine dernière, que le mal, c'est ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Ok, on va en parler, Bonne question, on va en parler dans la suite. Bonne question. C'est pas du mal dans le sens du mal qui font du mal et qui tuent. D'accord. C'est-à-dire que d'une manière, il y a toujours un intérêt. Voilà, c'est ça.
Non, c'est pas bien, quoi.
Non, j'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit que être capable de faire quelque chose que pour Dieu, c'est une capacité qui est donnée aux juifs. Mais on va se concentrer déjà sur ce qui nous concerne les juifs, après on parlera des nations. Oui.
Quand il y a un aliment qui est mauvais,
pas cachère.
Mélange avec votre aliment, oui. Il n'y a rien de bicoule.
Donc la Torah a décidé qu'il est plus problématique. Oui, il redevient bien, plus problème.
Tu vas chanter tout à l'heure.
C'est la Torah qui décide.
Ça fait rien.
Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? On y va. Alors on passe au chapitre suivant. Oui.
Pour là, c'est vrai que c'est incompréhensible, c'est-à-dire que si on prend cette même notion, on ne peut rien faire.
Mais donc, c'est la Torah qui décide, c'est oui, pas moi qui décide.
Non, bien sûr. C'est-à-dire que cette notion-là sur, qui se mélange,
c'est quoi le
mélange, qui serait du côté négatif, mélangé avec plusieurs positifs, il serait devenu un petit peu positif.
Je vais te donner un exemple pour illustrer, pour te montrer que finalement, qui c'est qui décide, c'est pas nous, c'est la Torah. Tu vois, par exemple, on va s'approcher bientôt de Pessah. À Pessah, on fait le Homer. D'où vient le Homer? C'est quoi le Homer? C'est que la nouvelle récolte, on n'avait pas le droit d'en profiter, enfin on n'avait pas le droit de la consommer, tant que on n'a pas offert le homer au Beth Amikdash. Donc le homer c'était une offrande de blé, d'accord, au Beth Amikdash. Tant qu'on n'a pas offert cette offrande de blé au Beth Amikdash, le deuxième jour de Pessah. C'est-à-dire que la même récolte, hier elle était interdite, tu la manges, tu fais un interdit, le lendemain tu fais une mitzvah, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est pas nous qui décidons ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est la Torah qui décide quand c'est bloqué, quand c'est débloqué. C'est comme ça. C'est comme un, voilà, il y a comme un crédit. Des fois il marche, des fois il y a, des fois il y a pas. Quand la Torah elle te le débloque, elle te le débloque. S'il est bloqué, il est bloqué. Il y a rien à faire. Tu comprends? T'as beau avoir le meilleur moteur, si c'est bloqué, c'est bloqué. D'ailleurs, c'est pour ça, Serge, il m'en veut toujours quand je dis ça, mais c'est la raison pour laquelle quand ma chère viendra, le cochon sera permis.
Non, Serge,
voilà, tu vois, je le connais déjà. Voilà. Parce que genre, parce qu'en vérité, le cochon,
mais que en brochette.
Modem.
Avec du beurre, allez. Fumé, non, c'est bon, fumé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, celui qui dit le cochon est dégoûtant, il se trompe. Parce que le cochon, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit dire? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, c'est bon, mais qu'est-ce que je vais faire que Dieu me l'a interdit? Donc Dieu me l'a interdit, c'est tout. Faut pas dire c'est pas bon. Il y a des gens pour s'auto-convaincre qui disent, non, mais en fait, c'est pas bon, j'ai rien perdu. C'est bien sûr que t'as perdu, c'est pas bon. C'est bon. Seulement, certainement, ça doit être bon. D'accord? Des milliards de gens se trompent pas. Vous croyez vraiment que c'est pas bon? D'accord? Dieu nous l'a interdit, c'est
mais
tout,
les,
c'est interdit.
Mais les autres animaux, ils deviendront cachers quand ma chère viendra.
Oui.
Tous alors. Chameau, donc il n'y aura plus d'interdit.
Parce qu'en vérité, la notion d'interdit aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi la notion d'interdit? C'est qu'il est enchaîné et donc l'énergie n'est pas récupérable. On n'a pas les outils qu'il faut pour récupérer l'énergie qu'il y a dedans. Mais quand ma chère va venir et qu'on aura plus de capacité, donc on pourra récupérer l'énergie n'importe où. Donc il n'y aura plus la notion d'interdit par interdit. Vous voyez la question? Parce que tout est créé par Dieu. D'où même le mal est créé par Dieu.
Il y a...
De quoi? Attends. Non, ça n'est pas nishtané. Non, c'est la Gemara. C'est la Gemara dit clairement, dit Ati de Chazir Litaer. D'accord? Non, c'est la réponse. La réponse est très simple. C'est qu'en vérité, la Torah ne change pas. C'est que si la Torah te l'avait interdit avant, c'est parce que tu ne pouvais pas y accéder. Maintenant, tu peux y accéder, donc il n'y a plus de raison de l'interdire. C'est tout. On va développer. Maintenant, on va passer à la suite. Et je pense que le chapitre suivant va nous parler beaucoup plus à tous. Parce que dans le chapitre suivant, en vérité, on va plus parler du mal absolu, le mal qui est irrécupérable, mais on va parler justement de ce que j'ai dit, de la deuxième catégorie du mal, c'est le mal. Il y a des questions? Alors, là.
Ceux qui veulent manger le prochain, ils peuvent, mais moi je continue à manger le reste.
Il n'y a pas de problème. Donc, dans la suite maintenant de ce chapitre.
Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise?
Perek Zayin, chapitre 7. On tourne la page, donc on va passer au chapitre 7 maintenant. On va développer maintenant la deuxième catégorie du mal. Pas le mal absolu, le mal irrécupérable, mais le mal, on va appeler ça le mal temporaire. C'est quoi le mal temporaire? C'est les éléments qui sont cachés, hein, mais que temporairement, on peut les traiter comme si c'était du mal. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est comme par exemple la gloutonnerie. D'accord? Une personne qui est glouton, qui va manger des choses cachées, mais qui va manger, par exemple, sans bracha. Voilà. Manger sans bracha. Sans kippa, sans bracha. Il a mangé cachère, le bonhomme, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il a mangé cachère. Oui, mais il a mangé sans bracha, sans kippa, d'accord? Il a mangé comme un animal. Qu'est-ce que la Torah pense d'un aliment comme ça? Tu peux pas dire qu'il a fait une avéra, il a pas fait d'avéra. Il a mangé cachère. Deux secondes. Il a mangé cachère. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est là qu'en vérité, on va rentrer, et vous allez voir, ça nous touche beaucoup. On va rentrer maintenant dans une deuxième catégorie, qui est le mal, c'est du mal, parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais comme à la base c'était un élément qui était cachère, donc on peut récupérer ça dans la Kedusha, comme on va développer longuement Bezrat Hashem dans les détails. Oui. Peut-être, bon, peu importe, qu'est-ce que ça change?
David, tout le temps.
Peut-être, oui, pense. Ça me change. Moi, ce que je veux m'arrêter, c'est les deux catégories de mal. Il y a le mal. D'accord. Il y a deux catégories de mal. Il y a le mal absolu et le mal qui n'est pas absolu qui récupère. Ok. Oui. Excusez-moi, j'arrive pas à entendre. S'il vous plaît. Oui.
Il y a un truc qui a l'air d'être important, moi j'arrive pas à l'instant. Tu parles, tu vois, un truc est moutard ou pas moutard, autorisé ou pas autorisé. S'il est autorisé ou il n'est pas autorisé, c'est que quand on fait une bracha, on peut libérer quelque chose.
Voilà.
Bon, mais libérer quoi ? Pour accéder quoi ?
Alors, très bien.
C'est quoi le but ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
C'est très simple, c'est que dans chaque élément, il y a une énergie. Chaque élément qui est autour de nous, même dans un élément qui est à l'air inerte, il y a de l'énergie dedans. Il y a de l'énergie, il y a une énergie qui le fait vivre. Surtout avec la science aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire confiance aux ors sur ça. Avec la science, on sait clairement que dans chaque élément, même des éléments qui nous ont l'air inertes, il y a de l'énergie. D'accord ? Et c'est l'énergie qui crée la masse. On est d'accord ? C'est le mouvement de l'énergie qui crée la masse. Donc il y a de l'énergie. Donc dans la Kabbalah, on explique que dans chaque élément, il y a une énergie. Et quand moi, je prends un aliment, qu'est-ce que je fais finalement ? Je prends l'énergie de cet aliment pour avoir, moi, de l'énergie. D'accord ? Je récupère l'énergie de cet aliment pour moi avoir de l'énergie. C'est ça qui va me donner de la force. Donc j'ai récupéré cette énergie pour moi. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie ? Alors si j'ai fait une bracha dessus, et que je prends cette énergie pour servir à Kadosh Baruch Hu, dans ce cas-là j'ai rendu service au cracker. J'ai fait monter l'énergie qu'il y avait dedans, j'ai fait monter vers Kadosh Baruch Hu. Mais si j'ai utilisé l'énergie de ce cracker pour aller faire une bêtise par derrière, j'ai fait descendre ce cracker. Et le cracker me dit, mais laisse-moi tranquille, pourquoi tu m'as pris ? Tu m'as pris pour prendre de l'énergie pour faire tes bêtises ? Mais le cracker il était cachère. Tu comprends le paradoxe qu'il y a ici ?
Comme quoi,
chaque chose a une énergie. Chaque chose, chaque personne, chaque élément, tout a une énergie. Une énergie qui se transmet.
Donc le but, c'est de prendre l'énergie, par exemple, du cracker.
Voilà.
De la prendre.
Voilà. Et de l'utiliser pour faire du bien. Donc par exemple, faire une bracha avec, utiliser ça pour servir un Kadosh Baruch Hu. Donc théoriquement, on aurait pu faire ça aussi avec un morceau de jambon. Si je prends la force d'un morceau, théoriquement, seulement pourquoi tu peux pas ? Parce que la Torah a dit, tu as raison que tu aurais pu théoriquement, mais il est enchaîné. Comme il est enchaîné, il est bloqué. C'est tout.
Et pourtant, il y a de l'énergie dedans.
Mais exactement. Pourtant, il y a de l'énergie dedans. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le problème qu'il était enchaîné, qu'il était bloqué, on aurait dû pouvoir récupérer l'énergie.
Donc, il y a des qualités d'énergie différentes.
100%. Il y a des énergies. Chaque chose a une énergie que je peux récupérer pour faire du bien. Seulement, comme il y a des choses qui sont bloquées, il est verrouillé.
Alors, ça devient comme un corban, finalement.
Très bien. Alors, c'est un très bon point, M. Benitez, qui touche. Et là, ce qu'on va développer, on va rentrer dans les mots. C'est que finalement, quand on mange, ça peut être presque comme un corban. Et là, on va rejoindre un peu ce qu'on avait expliqué dans le cours de Shabbat après-midi. On a touché un peu à ça. Que finalement, la table peut être comme un corban. On dit que depuis que le Beth Amikdash était détruit, notre table peut être comme un corban. Parce que c'est la même chose. C'est quoi un corban ? On prend un aliment, on va le consommer pour Akadosh Baruch Hu. Quand je veux manger quelque chose et que je prends des forces pour faire mon cours, pour servir Akadosh Baruch Hu, c'est un peu la même dynamique, la même logique. C'est je prends des forces pour servir Akadosh Baruch Hu. Je consomme quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion d'un korban. Ça, c'est la notion d'un sacrifice. Le sacrifice, c'est beaucoup lié à l'aliment. D'ailleurs, vous savez, en passant, ce jeudi, c'est un jeûne. C'est quoi la notion du jeûne ? Pourquoi on jeûne ?
Privation.
D'accord ? Maïmonide explique. Il dit que le jeûne, c'est comme un sacrifice. Parce que quand tu jeûnes, tu sacrifies l'aliment, tu sacrifies ta graisse. Tu sacrifies ce que tu aurais dû manger. Donc, il y a toujours une notion de sacrifice. Mais bon, ça, je referme cette parenthèse, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Oui.
Si l'énergie, de première raison, on ne peut pas libérer l'énergie.
Aujourd'hui.
Ouais, quelqu'un qui mange taref.
Oui.
Pourquoi cette nourriture elle aurait un impact sur lui ? Si elle a pas, on ne peut pas délier l'énergie.
Non, elle a un impact sur une personne. De toutes les façons, ça a un impact sur la personne.
Bah alors, s'il n'y a pas d'énergie dedans.
Non, il n'y a pas d'énergie récupérable. Mais ça laisse un impact sur la personne qui est là. Tu comprends ? On ne peut pas le faire monter chez Akadosh Baruch Hu.
De la même façon qu'il ne peut pas avoir un impact, il ne peut pas le monter vers le positif. Pourquoi veux-tu qu'il ait une influence négative ?
Parce qu'il est en moi.
Tu mélanges.
Il fait partie de ma chair. Et une personne qui a mangé pas cachère, quand tu touches sa chair ici, ben il y a un morceau de jambon. D'accord. Il est là, il est dans sa chair. Il vit avec, il a grandi avec.
Elle ne devrait pas avoir d'impact.
Mais bien sûr, parce que c'est calorique, c'est là, il est dans moi.
Ouais, mais il s'en va, il va partir.
Pas du tout, rien s'en va.
Il s'en va pas.
Tout ce que vous mangez fait partie de vous.
Et là, c'est une partie.
Ah oui, il y a des résidus, oui.
Qu'est-ce qui fait la différence entre on l'avait déjà dit, qu'est-ce qui fait la différence entre un nourrisson et un adulte ? C'est tout ce qu'ils ont mangé.
Oui.
Tout ce qu'ils ont mangé, ça a formé la chair. Donc dedans, il y a un peu d'affina, un peu de... Il y a de tout. Mais il n'y a pas de bourra. Alors, c'est là la bourra ?
Il y a de la boucha.
Bonne question. Donc là, il pose une bonne question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe avec la teshuva? Est-ce qu'une personne qui a mangé pas cachère, est-ce que c'est récupérable par la teshuva? Dis-moi. Tu m'as allongé ou quoi?
Non.
Allez,
Khaïd.
Tu vas faire des jaloux.
Mendy, tu sais, Khaïd.
Non, mais tu. Celui qui conduit, il boit pas, là.
Non, je t'ai donné ma part, parce que moi, je bois pas.
Je te ramène.
Ok, donc maintenant on va passer au Perek Zayin.
Il y avait la question, celui qui a fait la teshuva.
Teshuva, alors voilà, on va en parler. Déjà, il faut définir. Il faut définir d'abord les acteurs, les problèmes. Après, une fois qu'on a bien défini, on pourra après définir comment on va récupérer la situation. Ah, cependant, nefeshachiyu nitabemit chez Israël. L'âme animale qui a dans le peuple juif chez Mitzad Aklipa, Amloubeshad Bedam à Adam Kanal, qui se trouve dans notre sang. Maintenant, on va passer donc dans la deuxième catégorie du mal. Qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez l'âme animale du juif. Avec cette âme animale, le juif peut faire plein de choses. Il peut manger, c'est cachère manger. Il peut dormir, il peut boire, il peut parler. Ce n'est pas des éléments qui sont forcément négatifs. Vous avez aussi dedans toute l'énergie des animaux. D'accord? Des animaux, des oiseaux, des poissons, mais qui sont purs, théorim, qui sont tahor. Ou mutarim ba'achila, et qui sont permis à la consommation. Vekiyum vechayut, kol adomem kol atsomeach, amutar ba'achila. Donc, dans cette deuxième catégorie, nous avons tout ce qui est permis. Dans tout ce qui est permis, ben voilà, on a par exemple, les animaux permis, les oiseaux permis, les poissons permis, d'accord? Tous les végétaux qui sont permis, d'accord? Kol adomem vechol atsomeach, tous les minéraux permis, tous les végétaux permis. Donc, dans les minéraux, vous avez l'eau, le sel, enfin, tous les minéraux, les végétaux, vechen pareil. Kiyum vechayut, kol amase dibur marshava benino lamase, shen ben sadisur. Il y a plein de choses dans notre vie qui sont pas interdites, mais que c'est pas forcément une mitzvah. Par exemple, je suis assis chez moi à la maison, en train de discuter avec quelqu'un. Je discute. J'ai pas fait de la chanara. Je discute, je parle, je sais pas, une personne, il parle, je sais pas, de...
D'un film.
D'accord? Ou... Voilà. Il parle de... Enfin, ça, c'est déjà plus compliqué, mais il parle... il parle d'autre chose. D'accord? Alors... Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de yissour. Il n'y a pas de yissour, mais c'est pas forcément la kedusha. Lo sheresh velo anaf, mishasa mizeklota ase, veanfiem, deoraita ou de rabanan. Il y a plein de choses comme ça, qui sont ni une mitzvah, mais ni une avera. Ni une avera des rabbins, ni une avera de la Torah, c'est pas une avera. Rakh enam leshem shamaim. Le seul problème, c'est que je ne le fais pas pour Dieu. Et là seulement, retson agouf vechevso vetaavato. Seulement, je le fais pour qui? Je le fais pour moi, pour mon kiff, pour mon plaisir. Donc imaginez un cas, par exemple, une personne qui vient, qui va manger un bon steak, d'accord? Une bonne viande avec un bon vin, on en a parlé Shabbat. Pour qui il le fait? Il le fait pas pour Dieu. Éventuellement, peut-être il fera une bracha avant, parce que bon, il faut faire la bracha quand même, mais il fait pas pour Dieu, il fait pour lui. Il a envie de kiffer. Et il est là, comme on a dit, après il y a des niveaux, mais après, il peut être, des fois on peut tellement être plongé dans la nourriture, que le bonhomme, il a la tête que dedans, il a la tête que dans ça, il oublie tout le monde qui est autour de lui, et il devient comme un animal. Que des fois, l'instinct animal ressort, et on peut être là à manger comme un animal. Vous savez, comme les chiens. D'accord? Quand on prend un morceau de viande, on le jette loin, il y a deux chiens, regarde-les comment ils sont là en train de s'arracher. Des fois, t'as des gens au repas, tu demandes, c'est pas la même chose. Ils sont là, ils font la queue pour un sandwich, le bonhomme, c'est vrai, comme toi, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait là, il y a une personne qui a passé avant toi pour un sandwich, c'est quoi le problème? Non. Parce que des fois le problème, c'est qu'il y a un instinct animal. Cet instinct animal, eh ben, il est mamache comme un animal. On devient comme les animaux. Mais c'est pas à source qu'il a fait.
Non, c'était dernier sandwich.
D'accord. C'est pas à source qu'il a fait. D'accord. Vous savez, très important ce qu'on va dire. Il y a beaucoup de gens qui gardent une face devant les autres. Ça veut dire que tant qu'ils sont en public, etc., ils se comportent comme des hommes, posés, etc. et tout. Mais dès qu'ils sont chez eux à la maison, c'est une autre personne.
Il se lâche.
D'accord? Dès qu'il a pas son repas à temps, ou bien quand il se lâche, etc. Chose qu'il aurait jamais fait dehors. Mais c'est de ça qu'on parle. Qui je suis vraiment? Quand il y a personne qui me regarde. Et c'est ce qu'il te dit ici.
Connais-toi.
Il te dit, tu peux pas dire que c'est un interdit, parce que c'est pas un interdit. C'est pas un interdit. Il a mangé des choses permises, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est permis. Il expliquera aussi plus tard, par exemple, c'est la même chose quand on a des relations. D'accord? Quand on a des relations avec la femme, pareil, c'est la même chose. On peut avoir des choses, il a pas fait une avéra, parce qu'elle est permise, mais c'était pas l'Hashem Shamaim. Donc on va développer ça dans la suite. Donc dans les mots. Rakh einam l'Hashem Shamaim, ela retson agu vechavtso veta'avato. Ce qui n'est pas l'Hashem Shamaim, ce qui est seulement pour la volonté du corps, pour le plaisir du corps. Et ça, vous savez, deux secondes. Je vais m'arrêter un peu sur ce que Rambam y dit. Rambam y reprend une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Kol ma'aseha iyu l'shem shamayim, que tout ce qu'on doit faire doit être l'shem shamayim pour un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Maïmonide, dans son commentaire, il dit comme ça. Il dit, ça veut dire qu'un homme, même lorsqu'il mange, même lorsqu'il boit, parce qu'il a faim et parce qu'il a soif, c'est normal. C'est un instinct humain d'avoir faim et d'avoir soif. Et bien dans tous les cas, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, manger par gloutonnerie, ça amène pas du bien à l'homme.
Même par plaisir.
Ça c'est déjà un niveau. Mais il dit déjà par gloutonnerie, c'est pas bien. Même par plaisir, par la recherche du plaisir, il dit enze meshubar. Ça veut dire c'est pas préférable. Le préférable, ça aurait été quoi? D'avoir la kavana que quand on le fait pour Dieu. Vous allez me dire, mais c'est impossible ça.
Oui.
D'accord? Vous allez me dire, oui, mais c'est impossible ça. Alors, vous allez voir, on va avoir des techniques dans la suite. Ceux qui étaient la Shabbat, on a donné une petite technique. Première technique qui peut être par exemple, d'accord? D'attendre. Par exemple, d'accord? Vous savez, on avait, certainement les vétérans du Tania se rappellent qu'on parlera plus tard, Bezrat Hashem, dans les chapitres de la notion de Itkafia. Itkafia, ça veut dire quoi? Itkafia, ça veut dire la notion de paf. C'est pas de l'ascétisme, mais de pas être en train de vouloir kiffer, avoir la tête dans le kiff à 100%. D'accord? Pourquoi? Par exemple, il donne un exemple. Il dit, par exemple, imagine-toi une personne, par exemple, un tzadik, on va lui proposer de la glace. Après le repas.
Une boule ou deux boules?
Le tzadik, il va dire, moi, la glace, ça sert à rien. À quoi ça sert la glace? La glace, ça vient quand t'as plus faim. Donc la glace, ça sert à rien. En plus, Rambam dit que normalement, pour bien manger, on devrait manger aux deux tiers de sa faim. D'accord? Et c'est ça, voilà. Donc ça veut dire que quand t'as fini, t'as faim encore, parce que t'es deux tiers de ta faim.
Ouais, non, mais
10 minutes après, c'est ça. Alors, non, c'est quoi le chat? Ça veut dire qu'en vérité, un tzadik, c'est quelqu'un qui t'aurait dit, moi, j'ai pas besoin de la glace, parce que la glace, eh ben, ça sert à rien. Et on a connu des gens comme ça. Moi, j'ai connu des gens, les yeshiva, les rabbani qui m'ont enseigné. D'accord? Qui m'ont raconté qu'ils avaient, leurs parents et leurs grands-parents, etc., ont connu des gens en Russie, des rachamim comme ça. Des gens, que pour eux, même mettre, mais c'est un niveau, ça. Pour eux, mettre du beurre sur du pain, il n'y a pas besoin, je peux manger le pain comme ça. C'est un niveau, tu dis, attends, on a des années-lumière de ça.
Il n'y
a pas de problème. Donc, ça, c'est pas pour nous. On est très très loin, mais c'est pas un problème. Par contre, une chose qu'on peut faire, regarde Darabotay. Tu vas au restaurant. D'accord? Tu vas aller au restaurant. Tu vas prendre un dessert, parce que tu vas prendre un dessert, t'es au restaurant. Maintenant, il y a un dessert à 10 euros et un dessert à 20 euros. D'accord? 15 euros, 20 euros. D'accord? Attendez! Je parle pas de ratinerie. D'accord? Je parle de la notion de dire, tu vas dire, je prends le plus petit. Mais non, je suis pas en train de faire le tménique, de dire non, je vais me retenir, etc.
D'accord? Tu prends un ingrédient.
Je vous promets que c'est quelque chose de jouable. Vous savez ça? Il faudra du temps pour le développer. Mais ça, c'est quelque chose, on n'a pas idée à quel point ça raffine la personne. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait passer le message au Yitzhara, que c'est pas parce que tu veux que tu l'auras, eh ben, ça nous aide à nous travailler quand on dit Yitzhara. Quand le Tzara il dit, je veux mes trois boules, j'aurai mes trois boules de glace, d'accord? Du coup, après, quand il te propose une Avera, t'arrives pas à lui dire non, parce que tu l'as toujours habitué à dire oui. Et ça, il faut savoir que c'est pas une notion de la Chassidoute, c'est une notion que le Ramban, il dit, Nachmanid, il dit clairement, il parlait beaucoup à ses élèves, et ça a été repris par beaucoup de décisionnaires, qui disent que c'est même pas une recommandation, c'est une mitzvah de la Torah, que la Torah, elle dit qu'il faut pas être trop dans le gâchemi, dans le matériel, il faut savoir se retenir. Il faut savoir freiner un petit peu. Parce que quand on est à fond dans le matériel, dans le kiff, après il n'y a plus de limite pour le kiff. Parce que le Yetzarara, il te proposera toujours un kiff plus grand. Et à chaque fois, tu dis, bon, j'ai trouvé un kiff pour toi. Mais ce kiff-là, l'ashgacha, elle n'est pas terrible. Voilà. Et on monte, jusqu'à la fin, il te propose des trucs, tu sais même pas d'où ils sortent. Et tellement on est dans la recherche du kiff, qu'on ne sait plus où s'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il te dit ici. Il te dit que dans cette deuxième catégorie du mal, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout ce qui est fait pour le plaisir, que pour le kiff. C'est pour ça que j'ai fait exprès de raconter l'histoire que j'ai racontée au début du cours, qu'on avait raconté Shabbat, pour montrer que c'est une notion qui est purement subjective. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, rappelez-vous l'histoire du bonhomme qui n'arrêtait pas de manger. Il n'arrêtait pas de manger, toute la journée il mangeait. Il était gros, il était obèse. Toute la journée, il mangeait. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Comme dans sa tête, il mangeait pourquoi? Il mangeait pour servir à Kadosh Baruch Hu, cette nourriture était l'Shem Shamayim. De la même manière, quand on fait un repas de Shabbat, c'est aussi pour Kadosh Baruch Hu. Mais ça dépend. Est-ce que, il faut être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que franchement, quand on est assis autour de la table de Shabbat, est-ce qu'on se dit, la bonne nourriture que j'ai maintenant en train de manger, c'est en l'honneur du Shabbat?
C'est Dieu qui nous a mis là.
D'accord? Attendez. Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Et eux qui vont dire non, maintenant j'ai envie de bien manger, c'est tout. C'est une question difficile. Mais voilà, tout dépend de la kavana. Ça veut dire que la kavana que je vais avoir, va tout changer. C'est pas une question de quantité ici.
Mais on mange différemment, Shabbat.
Mais même si je le pense pas, la physionomie qu'il y a sur la table, l'environnement,
pas du tout.
C'est pas comme la table n'est pas comme celle de tous les jours. Le pain il est couvert, on fait le kiddush.
Oui, mais il y a des gens qui ont fait un bon repas et qui n'ont pas pensé un seul instant au fait que ce repas, il n'est pas pour l'honneur de mon ventre, mais il est l'honneur de Shabbat. C'est ce qu'il dit Maïmonide. Maïmonide il dit comme ça. Maïmonide à la fin des lois de Yom Tov, il dit comme ça. Il dit celui qui refuse d'inviter des gens. Pour Yom Tov, parce que Yom Tov, il faut faire un effort particulier pour inviter des gens. Parce que Yom Tov, c'est un moment de joie. Donc c'est un moment particulier où on pense à ceux justement qui n'ont pas la joie. Maïmonide dit celui qui ferme la porte de chez soi. Et quand on lui demande d'inviter des gens, il n'invite pas. Maïmonide dit celui-là, il doit savoir que c'est pas la joie de Yom Tov qu'il est en train de faire, mais c'est la joie de son ventre. C'est le mot de Maïmonide. Simrat Kresso, la joie de son ventre. C'est très rapide, avec une petite pensée, on peut passer de l'autre côté. Est-ce que je fais pour kiffer? Quand je finis, je dis, ah, bien mangé aujourd'hui. Hein. D'accord? Grâce à Dieu, Baruch Hashem, je tape chez moi, on a bien mangé aujourd'hui. Maintenant, on va bien dormir. C'est ça la question. Il faut savoir. C'est une grande question qui est très difficile à répondre.
Après tout.
D'accord?
Après tout, si on a bien mangé.
J'ai pas dit que c'est interdit.
Il est où le mal?
Personne n'a dit que c'est interdit.
Il n'y a pas de mal.
J'ai pas dit que c'est interdit. Seulement, si je l'ai pas fait pour Dieu, on passe dans la deuxième catégorie du mal, qui est du mal, ça veut dire des choses bien, mais qui n'ont pas été bien faites.
Ouais, mais là aussi c'est subjectif.
Tout est subjectif. C'est... Ok, chacun se connaît. On va donner un exemple. Donc, Veakol, donc Vafilou, Tsorechagou, Vekiyumo, Vechayuto, Mamash. Vous avez Vafilou, là on reprend dans les mots. Vafilou, page 111. Pour ceux qui sont en français, je sais pas en hébreu où on est.
Vafilou.
D'accord. Vafilou, Tsorechagou, Vekiyumo, Vechayuto, Mamash. Même si la personne il va manger parce qu'il a vraiment besoin, il a faim. Il doit manger. Vous comprenez qu'on touche vraiment à un autre niveau, là. Et là, chez Kavanato et Naï, l'Hashem Shamaï. Mais que sa Kavana, son intention quand il mange, c'est pas l'Hashem Shamaï, c'est pas pour un Kadosh Baruch Hu. Qu'aide la Vod et Hashem Begoufo, pour servir Dieu Begoufo avec son corps. Lo a dit fait, ma sedibur marchavot elu, min nefeshachi, nu te bemitatma. Et tu dis, dans ce cas-là, si tu as mangé mais que tu n'as pas fait pour Dieu, ça veut dire c'est comme un animal. Parce qu'un animal aussi, pourquoi il mange un animal? Parce qu'il a faim. Pourquoi il boit? Parce qu'il a faim. Ça veut dire que la question qu'il te pose, c'est une question très dure qu'il pose ici. C'est finalement, honnêtement, si on réfléchit honnêtement avec nous-mêmes, est-ce qu'une bonne partie de la journée, on n'agit pas comme des animaux?
Toute la journée.
On peut aussi retourner la
toute
question.
La journée, bien sûr, toute la journée. Mais toutes les journées, Chas v'Shalom, c'est très dur ce qu'il va dire. Pourquoi il nous dit ça ici? Parce que vous comprendrez qu'après, dans la suite, on verra. Il essaye de nous faire comprendre que être tzaddik, c'est très 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 compliqué et que c'est pour ça que 99,999% des gens ne sont pas tzaddik. C'est pour ça qu'il nous explique ça ici. Les gens, ils croient, ils sont tzaddik, c'est qu'ils sont religieux. Tu dis non, c'est important d'être religieux, c'est très bien d'être religieux. Mais là, on te parle d'une autre gamme, c'est autre chose qu'on te demande ici. Tu dis que tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaï. Mais c'est impossible, on n'arrive pas à le faire. C'est impossible. Tu veux que même quand je mange, quand je dors, quand je bois, laisse-moi manger tranquillement. Mais la question qu'il te dit, c'est que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie de la journée, on est comme les animaux. Vous savez, les animaux aussi, ils ont des sentiments. Les animaux aussi se blessent. Vous voyez, des fois, vous voyez, bien sûr, les animaux. Un animal qui a blessé l'autre, il y a aussi des histoires d'honneur, et il a fait comme ci, l'autre il a fait comme ça. Comme nous, la même chose.
Mais c'est une utopie.
D'accord? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'il veut nous montrer, l'Admor HaZaken, c'est que la Torah, qu'est-ce que fait la Torah? La Torah, elle veut qu'un maximum possible de ta journée, tu agisses comme un homme. Donc c'est pour ça qu'elle te dit, tu dois manger, tu vas manger, pas de problème. Mais si tu peux manger comme un juif, c'est pour ça que la Torah, déjà, elle te dit, avant de manger, tu vas faire une bracha. C'est déjà quelque chose, faire la bracha. Même si tu vas manger pour kiffer, tu fais une bracha. C'est quoi la bracha? Il y a des gens qui vont dire la bracha, laisse-moi, je la fais après. D'abord, je mange. Pourquoi tu veux que je dise merci avant de manger? J'ai pas mangé, laisse-moi manger d'abord. La bracha, avant de manger, c'est une histoire de mettre un frein. Te dire, doucement, calme-toi. C'est pas parce que tu as envie de manger maintenant que tu vas manger tout de suite. Calme-toi. D'abord, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une notion générale. Regardez. On rentre à la maison. Madame a préparé un repas. On se pose la question, qui a préparé ce repas? Combien de temps elle a pris pour le préparer? Que toi, tu vas le manger en 10 minutes et elle a pris une heure pour préparer? Ou 2 heures, ou 3 heures, ou le repas de Shabbat? On se pose pas la question, on mange. La Torah te dit, stop, freine. N'agis pas comme un animal. Agis comme un homme. Arrête-toi. Pose-toi la question, qui a préparé? Est-ce qu'il faut que je le remercie? Essaye de voir ce qu'il y a derrière. Ne t'arrête pas au côté animal de la chose. Et ça, toute la vie, on tourne autour de ça. Par exemple, quelqu'un m'a énervé. Je m'énerve, bien sûr, je m'énerve parce qu'il m'a énervé. Mais ça, c'est la réaction d'un animal. tu vois un lion qui embête un autre, il va s'énerver. Mais si je réfléchis comme un homme, j'y attends, je suis pas un animal. Ok, il m'a énervé. Bien sûr qu'il m'a énervé. Mais est-ce que je peux pas me retenir? C'est là que je rajoute la touche humaine dans la chose. Mais il y a plein de choses qui sont cachères, on peut rien te dire. Le bonhomme, il a mangé comme un glouton, mais c'est cachère ce qu'il a fait. C'est là que la Torah te dit, c'est là que le Tanakh explique que finalement, c'est quoi le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est d'amener une kedusha dans chaque élément de ma vie. Même quand je mange, même quand je dors, même quand je bois. Vous savez que même quand on dort, il y a des halakhot, comment on dort? D'accord? Comment on dort? La Torah te dit comme ça. Elle te dit, tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de dormir sur ton dos. Pourquoi? Parce que dormir sur le dos, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Sauf s'il est trop gros. Bon, voilà, ceux qui se sentent gros, c'est bon. Alors, d'accord?
Mais le mec, il est tout seul dans son lit, quel orgueil.
Un orgueil par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est d'accord? C'est comme ça. Quoi? Non. Alors, qu'est-ce que te dit la lacha? C'est la lacha qui te dit ça. C'est pas le tamien, ça. Qu'est-ce que te dit la lacha? La lacha, elle te dit, pour dormir, tu dors la première moitié de la nuit à gauche et après à droite. C'est-à-dire au milieu de la nuit, tu vois, tac, t'as un petit réveil.
Ta femme sera là pour te réveiller et te dire de te retourner.
Sérieusement, sérieusement, ça veut dire quoi? D'accord. La Torah nous dit que quand on dort, il faut dormir sur le côté, soit le côté droit, soit le côté gauche. Toujours. C'est comme ça. Tu vas dire, mais ça va, qu'est-ce que je veux dormir? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dormir. J'ai rien fait. J'ai eu aucune pensée tordue, j'ai eu aucune parole. Je veux dormir, laissez-moi tranquille. La Torah te dit non, ça marche pas comme ça. Même quand tu fais quelque chose comme dormir, tu dois te poser la question, comment je vais dormir comme un juif? Comment je vais dormir comme un juif? Alors, comment tu vas dormir comme un juif? Ben, tu vas dormir d'une manière que qui va pas t'amener de l'orgueil, d'accord? Et que tu vas pas t'endormir comme un juif. Tu sais, il y a même une halakha. Comment on fait pour s'étourdir? S'étourdir. Écoutez cette halakha. C'est une halakha écrite en Shulchan Aruch, c'est que les gens ne le connaissent pas. S'étourdir, comme ça. Les gens, comment ils font pour s'étirer, pardon, excusez-moi, désolé. Comment on fait pour s'étirer? D'accord? Comme ça. D'accord? L'halakha te dit non. T'as pas le droit de mettre tes, quand tu t'étires, c'est un signe d'orgueil, comme ça, elle te dit. Après, est-ce qu'on comprend tout? Je sais pas. D'accord? Il faut s'étirer de manière à ce que les mains ne dépassent pas la tête. Comme ça. Mais attends, laisse-moi tranquille, je vais m'étirer.
Non, mais ça veut dire qu'un joueur de foot qui marque un but.
C'est la rassera, hein?
Non, mais un joueur de foot qui marque un but, et s'il est juif.
Ouais, je vois, il se retire le pauvre.
Ça bouillonne.
Ça veut dire quoi? Le but de toutes ces halakhot, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous casser les pieds. D'accord? Rabotaï. Le but de toutes ces halakhot, c'est pas pour nous casser les pieds. Le but de toutes ces halakhot, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'un maximum de temps de la journée, on le fasse comme un homme et pas comme un animal. Et quand on réfléchit, on voit que la majorité des réactions qu'on a dans la journée sont des réactions qui sont purement animales. Hop, ma femme m'a dit quelque chose qui m'a blessé, je me suis blessé et je suis parti. Est-ce que tu as pensé à te retenir? Pourquoi je me retiens? Elle m'a énervé. Mais est-ce que tu as pensé à te retenir? Non, j'ai pas pensé. Pourquoi? Parce que j'ai réagi comme un animal.
Parce qu'on est fait de chair et de sang.
Parce qu'on est animal. L'homme est un animal. On a des pulsions animales, c'est clair. Et c'est là le rôle de la Torah qui te dit attention. Il te dit, tu peux faire des choses qui sont cachères, mais tu les fais comme un animal. Et là, la Torah te dit, il faut te travailler. Même dans ça, il faut te travailler. Donc, par exemple, comme on a dit, par exemple, en ne pas mangeant comme un glouton, en faisant la bracha avant, en faisant la bracha après. C'est une manière de montrer que je remercie Akadosh Baruch Hu et que je fais un stop. C'est pas parce que je veux que je le remette maintenant. On continue.
Mais enfin, c'est quand on arrive à ce niveau-là, toute une vie ne suffit pas pour...
Très bien. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que je ne sais pas, honnêtement, je pense pas qu'une personne qui ne soit pas tzadique puisse arriver à ce niveau-là. Je pense pas. Mais je pense que, d'une certaine manière, on peut y arriver. Ça veut dire, pas à 100% ce qu'il demande, mais sur certains points, on peut réussir. Sur la notion d'amener le caractère humain, le caractère de la réflexion, le caractère posé, dans ce qui est animal. On peut le faire.
Ouais, mais enfin, le fait de ne pas, parce que quelqu'un t'a énervé, tu réfléchis, gnagnagni, je sais pas quoi.
Bien sûr, oui.
Alors, finalement, tu passes pour un con vis-à-vis de l'autre, là. Voilà, il peut faire de toi tout ce qu'il veut.
Alors, monsieur Benita, je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous garantir, je répéterai pas le mot que vous avez dit, mais c'est l'autre qui passe pour un imbécile. Je vous garantis. Quand un bonhomme, il t'énerve, et il voit que tu réagis pas, il a l'impression qu'il est remis. Mais grave, tu l'énerves. À tel point que ça l'énerve, qui monte le ton, mais quand tu vois que tu bouges pas, il se sent bête, il dit, mais non, je vous promets que ça marche. Ouais, essayez, vous allez voir, ça marche.
Ça dépend.
Essayez avec madame, vous allez voir, ça marche, je rigole.
Ça dépend.
Je plaisante.
Non, je sais bien, mais enfin bon, tout est relatif. Hein,
voilà. Bon, en tout cas, on a compris le message. Le message, c'est que, on peut faire des choses qui sont cachères, manger, boire, dormir, Mais quand on le fait comme un animal, eh ben, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour la personne. C'est comme un animal. La Torah te dit, c'est pas bon pour toi. Il faut essayer d'amener le caractère humain, le caractère de la Kedusha. On va développer. Vehakol, kasher l'école. Donc, on continue. Vehakol, donc toujours la même page. Vehakol, kasher l'école. Nishpa, ve nimshar, mi madrega. Donc toutes ces catégories qu'on vient de dire ici, ça veut dire les choses qui sont permises, mais qui sont pas faites pour Dieu. Comme tout ce qu'on fait, voilà, il va aller au boulot, il va prendre ça, tout ce qui est fait, qui est cachère, qui est permis, mais que je fais pas pour Dieu, je fais pour moi, pour mon kiff. Ça rentre dans cette quatrième catégorie, dans cette quatrième clipa, qui est du bien, mais dans l'état actuel, je l'ai fait comme du mal. Mais c'est du bien quand même, c'est cachère, je dis pas que c'est pas cachère.
Il va développer.
Il n'y a pas que le kiff. Il y a des choses qui sont obligatoires.
Oui.
On doit faire.
Bien sûr. Mais je l'ai fait pour moi, pour mon kiff.
Oui, mais in fine, c'est Dieu que je sers.
Oui, d'accord, ça dépend. Oui et non.
Oui, quand je travaille, c'est.
Alors.
C'est
bon. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Quand on réfléchit. Sheber Olam Hazeh. Que ça en vérité, c'est quoi? Sheber Olam Hazeh. Que ça, c'est finalement ce qui se passe dans notre monde. Anikra Olam Asiya. Qui est appelé le monde de l'action. Revo que Kulora. La majeure partie des actions qui sont faites dans le monde rentrent dans cette catégorie. Ça veut dire des choses qui sont cachères, mais qui sont égoïstes, qui sont pas pour Akadosh Baruch Hu. La majorité rentre dedans. Rak, mais atov, mais Beora, Betora, il y a très peu de bien, très très peu de bien qui est mélangé dedans. On va amener, j'accélère un peu parce qu'il va amener un très bel exemple après. Shemimina ba'ot midot tovot shebenefesh shebemit shebeyisrael kemo shenidber leel. Vehi. Prina memutsaat ben shalosh klipot atmeot legamre uven. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il dit l'Admor HaZaken ici, c'est très simple. Il n'est pas venu ici contredire ce qu'on a toujours expliqué depuis le cours d'avant et le cours d'avant encore. On avait expliqué que finalement, il n'y a pas trois catégories, il n'y a que deux catégories. Il y a le bien et ce qui n'est pas bien. Là, quand on écoute ce cours, on a l'impression qu'il y a trois catégories. Il y a le bien, il y a le mal absolu, et il y a le mal, enfin, il y a le bien, mais qui a été fait comme du mal. Tu dis non. Il y a toujours deux catégories. Il n'y a pas trois catégories. Seulement quoi? Tu as ce qui est déjà bien. Tu as ce qui est mal à 100%, et tu as ce qui est entre les deux. Tout ce qui est, par exemple, voilà ce qui est cachère. Je vais manger quelque chose qui est cachère, qui est permis. Après, c'est moi qui vais décider qu'est-ce que je veux faire avec. Est-ce que je vais l'utiliser pour faire du bien, ou est-ce que je vais l'utiliser pour faire du mal? Donc, c'est entre les deux. D'accord? C'est comme un switch. C'est comme un switch. Tu peux décider, tu peux pousser à droite, tu peux pousser à gauche. Mais c'est cachère. C'est cachère. Alors, il amène ici un exemple. Il dit, ou fait amim, shein ichlet vola vefrinat umadragat akdusha, dainu pshatov ameorava, nitvarer meara vegover vola venichal bigdusha. Ce qu'il dit néanmoins ici, et ça on va développer ça dans la suite, c'est que étant donné que c'est un élément cachère, même si à la base, des fois une personne l'a fait par gloutonnerie, mais comme ce qu'il a mangé c'était cachère, alors dès que par la suite il va étudier quelque chose, il va étudier un dvar Torah par la force de ce qu'il a mangé, il va récupérer l'énergie qui était mal récupérée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'élément qu'il a mangé est un élément qui était cachère. Donc il n'est pas assourd, il n'est pas mis en captivité. Alors je suis content que c'est pas facile ce qu'on vient de dire, expliquer ici. Non, j'ai pas dit ça. Ah. C'est bon, j'y arrive. Dans ce cas, non, parce que ça laisse des traces. Kegon, par exemple, derech machal. On va amener un exemple. Aochel, bisra, shmina, de Torah. Donc l'exemple qui va venir ici, c'est pour illustrer quoi? Pour illustrer la notion qu'on a expliquée ici. Que je résume. Que finalement, dans le mal, il y a deux catégories. Il y a le mal absolu, ce qui est irrécupérable. Et il y a le mal, enfin, il y a le mal, mais qui est récupérable. C'est par exemple tout ce qui est cachère, mais que je l'ai pas fait pour Dieu, ça c'est récupérable. Très bien. Kegon, donc il donne un exemple. Aochel, celui qui mange. Bisra, shmena, de Torah. Celui qui mange une viande grasse de bœuf. Bonne viande. D'accord? Il mange une bonne viande. Bon. Veshote, yain, mevosam, et qui prend du vin. Alors, il appelle ça ici du vin parfumé. C'est-à-dire du vin épicé, ça veut dire un bon vin. Léachiv dato l'Hachem ou le Torato. Mais qui le fait? Vous allez me dire, c'est un kiffer, le bonhomme. D'accord? La bonne viande, le bon vin, c'est bon, c'est un kiffer. Mais c'est l'exemple qu'on a amené Shabbat. C'est pour ça que je vous dis qu'on allait en parler encore de Tania. Rava. Mais là, c'est la référence, c'est ici. Je vous en ai parlé rapidement Shabbat. Là, on va voir la référence ici. Donc, il va manger de la bonne viande. D'accord? Il va boire du bon vin. Léachiv dato l'Hachem ou le Torato. Léachiv dato l'Hachem ou le Torato. Pourquoi il le fait? Pour élargir son esprit pour Hachem et pour sa Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait que la viande, ça donne des forces, et on sait que le vin, ça ouvre l'esprit. Ça, on le sait. Donc, une personne qui va bien manger pour bien étudier après. Imaginons que ça existe des gens comme ça. Kedamar Rava, et ça a existé, sachez-le, Kedamar Rava, comme Rava a dit, Khamra verecha pakrin. Rava a dit que le vin et les bonnes odeurs, ça ouvre l'esprit. L'histoire que la Gemara raconte là-bas, hein, d'accord? On raconte que Rava, tous les jours avant de faire son, repas, avant de faire son cours, il demandait à ce qu'on lui amène de la bonne viande et du bon vin. Écoutez bien cette histoire. Ça, je vous ai pas raconté Shabbat. La Gemara raconte, la Gemara raconte cette histoire. Elle raconte qu'une fois, ce même Rava, il a donné un enseignement à Rav Nachman, qui était son élève. Il lui a donné un enseignement. D'accord? Et, non, pardon, c'est le contraire. C'est Rav Nachman qui a donné un enseignement à Rava. Il lui a donné un enseignement. Et, bon, un enseignement qu'il a donné. Le lendemain, il a répété l'enseignement avec beaucoup plus de chidushim, beaucoup plus de nouveautés. Alors, l'élève a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Comment ça se fait que tu es venu, tu m'as répété le même Dvar Torah, mais là, tu m'as rajouté plein de nouveaux éléments? Il lui a dit, ce qui a changé? C'est qu'hier, j'avais pas mangé la viande et j'avais pas bu le vin avant. Et quand je mange pas la viande et je bois pas le vin, le cours n'est pas le même. C'est extraordinaire, ça. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Ensuite, c'est pas fini. Rav Nachman a dit là-bas, il a dit, si j'ai pas eu le matin mon révit de vin, d'accord, ça veut dire, si j'ai pas eu mon quart de vin, si j'ai pas eu mon quart de vin, je ne peux pas donner mon cours, et pas seulement ça, mon esprit n'est pas limpide. D'accord? Tu vois ça, tu dis, est-ce qu'il est pas français celui-là? D'accord? Mamache comme ça. Rav Nachman te dit, si j'ai pas eu mon quart de vin le matin, mon esprit n'est pas limpide. Pourtant, c'est Rav Nachman. Rav Nachman, Rava, c'est des grands maîtres de la Gemara, c'est pas des rigolos. C'est pas des bonhommes qui sont là, c'est des tzadikim. C'est des gens très importants. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Pourtant, nous, instinctivement, dès qu'on nous parle de bonne viande et de bon vin, on dit, ah, c'est un peu un kiffeur, hein, Sarah, t'as kiffé, hein. Non, pas du tout. Et lui, il veut pas le kiff. Lui, ce qu'il sait, c'est que la viande, si elle est pas grasse, il va mal la digérer, et ça lui donnera pas des forces. Si elle est bien grasse, elle est bien bonne, ça va lui donner des forces. Et ça veut dire que c'est des gens, comme les tzadikim comme ça, qui arrivent à prendre même des choses qui pour nous ont l'air d'être des plaisirs, ils vont les faire pour Akadosh Baruch Hu. On peut le faire nous aussi, ça. Par exemple, au Bishvil, Kedel le Kayem, Mitzvat, Onek, Shabbat, Veyom Tov. Par exemple, si on le fait, si on va acheter de la bonne viande et du bon vin, pour accomplir la mitzvah de Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit que Shabbat, il faut avoir la viande la plus grasse possible. Et c'est pour ça que la Gemara le raconte. Que, en vérité, toute la semaine, on peut être là en train d'honorer le Shabbat. Comment c'est possible? Dimanche, je vais aller acheter, chez le boucher, je vais acheter une viande. Je dis cette viande, je la gagne, je revois le Shabbat Kodesh. D'accord? Enfin, la viande ou l'animal. Le lendemain, je passe par le marché et je vois qu'il y a une meilleure viande encore. Je dis alors, la viande d'hier, je vais la manger aujourd'hui. Et cette viande-là, je vais la garder, je revois le Shabbat Kodesh. Ouais. Après, mardi, mercredi, etc. Et ça veut dire que finalement, tous les jours, on peut être là pour garder l'irvot Shabbat Kodesh. Pareil, le vin. D'accord? Il y a des gens, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, c'est, pour moi, c'est pas respectueux de faire kiddush sur un vin hideux. Sur un vin qui est pas bon. D'accord? Alors, t'as des gens qui vont dire, il vend un bon vin parce qu'il vend un bon vin. Mais t'as des gens que pour eux, le kiddush, de la même manière que quand j'invite un invité à table, je lui sers pas un vin que j'ai acheté, d'accord? Je sers pas un vin de table que j'ai acheté à 2 €. Je vais lui servir un bon vin. Eh ben, il dit de la même manière, et pour quelle invité? Eh ben, de la même manière, tu as des gens qui vont te dire, quand je fais un kiddush, il me faut un bon vin, l'irvot Shabbat Kodesh. Ça, vous voyez, c'est une manière de montrer que je peux acheter un très bon vin qui vaut très cher, et que je vais certainement kiffer quand je vais le prendre, mais je l'ai pas acheté pour mon kiff, je l'ai acheté l'irvot Shabbat Kodesh. Tout est dans la kavana. Vous voyez, comme avec une petite kavana, tout peut changer. Et ça, vous voyez, franchement, ça, c'est accessible.
Donc, si t'es reçu avec un vin de table, tu peux dire celui-là, peut-être qu'il ne veut pas trop.
Non, peut-être qu'il ne comprend pas dans les vins. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, je ne comprends rien dans les vins, par exemple. Je ne comprends pas la différence.
Même s'il prépare le champagne.
Hein? Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Je comprends l'autre chose. Et il y a des gens qui comprennent les vins. Là, tu peux donner un vin à 10 €, un vin à 50 €, un vin à 1 000 €, je ne veux pas sentir la différence.
Si, si.
Si. Maintenant, il y a des gens qui sentent la différence.
Ah, si, tu sentiras la différence.
Bon, d'accord.
Tu la sentiras.
Ouais, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pipeaux dans tout ça, parce qu'une fois, il y avait il y avait quelqu'un, je me rappelle, qui nous disait que c'était un grand connaisseur en whisky. On lui a fait un whisky, le pauvre, on lui a mélangé 10 whiskies dedans, dans une bouteille haute qualité. Il a bu et dit, waouh, ton whisky, il y a rien, et voilà, son whisky.
Vous avez fait une recette de folie,
peut-être que vous avez fait un bon dosage.
Là, vous avez peut-être fait un bon
mélange. Oui, bien sûr, mais en tout cas, le mélange, il valait pas 50 €, je te garantis.
C'est comme dans le dîner de con, pour mettre du vinaigre comme
ça. D'accord. Donc, au Bishvil, Kédé, Lekayem, Mitzvat, Onek, Shabbat, Viyam Tov.
Mais le fait de faire la beracha sur ce que je vais manger,
non.
Donc je pense à Dieu.
Faux. La beracha, c'est pas suffisant. Parce que la bracha, ça veut dire que j'ai pensé à Dieu avant de manger. Mais pendant que je mange, est-ce que je pense à Dieu? Pas forcément. C'est pas ça.
Ouais, mais ça me coûte rien de dire, voilà, je pense à Dieu.
Voilà. Mais genre, ça coûte rien. Ça coûte du temps. Ça coûte du temps parce que j'ai faim, je veux manger. Non, mais ça coûte du temps. Quand j'ai faim, je veux manger. Le temps que je vais prendre pour aller faire des tilat yadaïn, pour aller faire le kidouche, etc., ça prend 10 minutes. C'est 10 minutes que j'aurais pu manger 10 minutes plus tôt. Donc, j'ai donné 10 minutes à Dieu.
Exact. Oui, mais de toute façon, on le fait systématiquement.
Voilà. Mais ça, c'est pas suffisant, ça. Parce que ça, c'est le temps que j'ai donné à Dieu avant de manger. Là, ce qu'il te dit, c'est que même quand je suis en train de manger, je peux avoir la kavana que je le fais chez Shamaïm. Franchement, ça, c'est les choses accessibles. Ce qui est plus difficile à notre niveau, c'est de le faire toute la journée, tout le temps. Mais à certains, s'il vous plaît, mais de le faire à certains moments, de le faire à certains moments de la journée, à certains moments de la semaine, c'est possible.
Enfin, c'est un automatisme finalement.
Non, c'est pas un automatisme, c'est un travail. C'est un travail.
Tu prends conscience.
Azaï, à ce moment-là, Nidbarer, Chayut, Abassar, Vayain, Shayanishpa, Miklipat, Noga, Veola, Lachem, Kerola ou Kekorban. Là, on arrive à ce que M. Benita a dit. Que le repas de Shabbat peut être comme un Korban. Quand c'est un repas de Shabbat et qu'on se rappelle qu'on le fait l'Irvot Shabbat Kodesh, parce qu'on a fait un kiddush avant, on va répéter un Dvar Torah, et qu'on se rappelle c'est l'Irvot Shabbat Kodesh, on va remercier sa femme et on va se rappeler que c'est l'Irvot Shabbat Kodesh. Quand on a mis une ambiance de Shabbat, c'est comme un sacrifice, parce que c'est quoi le sacrifice? On a pris un aliment, on l'a consumé pour Dieu. Qu'est-ce que je fais dans la nourriture? Je prends l'aliment, je vais le consumer, je vais le manger pour Dieu. Donc on peut être là en train de manger, et en train de manger quelque chose de très très bon, qui vaut très très cher. Mais je le fais pour qui? Je le fais les chavot d'Akadosh Baruch Hu. Autre exemple qu'il amène ici. Vous allez voir, c'est l'exemple magnifique. Vechen, pareil. Omer Milta Dibdichuta. Ce même Rava, il avait l'habitude, avant de commencer son cours, toujours il faisait une blague. Une blague. Pourquoi? Une blague ou quelque chose d'amusant. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la blague, ça détend l'atmosphère. Des fois, ils voient ses élèves, ils sont là, vous savez, des fois les élèves, ils ont couru pour arriver, etc. Ils sont là, ils sont essoufflés, ils sont, etc. Après, ils ont peur du Rav. Il est là pour les détendre et leur faire une blague. Qu'est-ce que la Torah pense des blagues? Les blagues, c'est l'amusement. Les blagues, c'est l'amusement. Et souvent, les blagues, franchement, ça rime souvent avec la frivolité, avec les bêtises. D'accord? Très souvent. C'est vrai.
Jamais de la vie.
C'est vrai que chez les Juifs, on aime l'humour. C'est vrai. Mais les blagues, d'accord? Les humoristes, vous remarquerez que les humoristes, très rapidement, c'est très difficile d'être humoriste, rester cachère. Les humoristes, en général, pour être intéressants, il faut chercher soit ce qui est vraiment intéressant, soit ce qui est grossier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et quand on commence à rentrer dans l'humorisme, on commence à rigoler, etc. On se rend compte que très rapidement, ben on se retrouve à dire des choses pas cachères, pas jolies, faire des jeux de mots un peu tordus, etc. Ça arrive très très facilement. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Ce même rabbin, qu'est-ce qu'il fait avant de commencer son cours de Torah et après avoir mangé la viande et le vin, bien sûr, ça va de soi. Qu'est-ce qu'il fait? Une blague cachère, bien sûr, mais une blague. Ça peut avoir l'air un peu déplacé de la part d'un rabbin de faire une blague avant de commencer son cours. La réponse est non. Pourquoi? Parce que la blague en soi, elle n'est pas interdite. Si c'est une blague cachère, elle n'a rien interdit. Seulement, où elle va amener la blague? Là, c'est vrai qu'effectivement, quand on est, par exemple, la Gemara nous dit qu'elle dit des mots très très durs sur ceux qui sont assis dans les cafés, qui sont toute la journée en train de faire des blagues. Elle dit des mots très très durs. Elle les appelle Yoshvé Kranot, ceux qui sont assis dans les coins. Et elle appelle ces gens-là Moshav Letim. Moshav Letim, d'accord? Je parle pas d'une personne qui vient pour prendre un café. Vous savez, je parle des gens comme quand vous passez à Géant là-bas. D'accord? Oui, des gens, ils sont là, tu viens le matin, tu les vois, ils sont là. Tu vas l'après-midi, ils sont là. Le soir, ils sont là. Et toute la journée, ils sont là. Il y a juste la couleur du visage qui change. C'est tout. Et encore. Voilà.
Mais dès le matin,
voilà. Mais tu les vois, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils rigolent. Donc qu'est-ce que la Torah pense de la rigolade? Pareil, c'est la même chose. Ça dépend. La rigolade en soi, si tu fais que rigoler, c'est pas bien. C'est peut-être même interdit. Mais si on le fait de manière modérée, et qu'on le fait pour servir à Kadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, non seulement que la blague n'est pas interdite, mais c'est même une mitzvah. Parce que ça a détendu les élèves. Vous voyez comment dans la vie, on a plein d'éléments comme ça, plein d'éléments comme ça, qui, d'un côté, d'accord, peuvent être une mitzvah, d'un autre côté, peuvent être une avéra. Et après, ça dépend comment je vais l'utiliser, ça dépend comment je vais m'en servir. Et ça, c'est cet exemple-là, on l'amène de qui? On l'amène de Rava. Rava qui était un très très grand maître. Et d'ailleurs, Rava, on parle souvent de Rava, parce que Rava, il a beaucoup enseigné à ses élèves, non seulement les enseignements de la Gemara, c'est-à-dire l'enseignement de Torah, de Halakha, mais il leur enseignait aussi beaucoup de Halakhot de la vie de tous les jours. Il y a différentes choses que je peux pas élaborer maintenant, une autre fois si tu veux. Mais beaucoup d'éléments que beaucoup d'éléments qu'on voit que Rava nous montrait comment, même dans la manière comme une personne va vivre, va cohabiter, il va le faire d'une manière cachère. Et des choses que Rava, il parlait, il était à la limite très cru. Parce qu'il voulait leur montrer, ne croyez pas qu'on est religieux seulement à la synagogue en train de mettre les tefilines. Non! Même quand je suis chez moi à la maison, la manière comment je parle à ma femme, la manière comment je parle à mes enfants, la manière comment je réagis, ça même c'est des choses qu'on peut, c'est des mitzvot. C'est la manière de réagir que je montre que j'agis pas comme un animal. J'ai amené récemment l'exemple du Raf, je crois que c'est, de mémoire c'est le Rafet Raïm, qui avait l'habitude avant de rentrer chez lui à la maison. Avant de rentrer chez lui à la maison, il rentrait pas comme ça. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes sur la tête, c'est-à-dire les gens ils venaient lui raconter des problèmes, etc. Et vous imaginez qu'une personne comme ça, lorsqu'il rentre du boulot le soir à la maison, il est crevé, il est fatigué. Il avait envie d'une chose, c'est de s'asseoir et de s'allonger. Mais il a une femme qui l'attend à la maison. Et cette femme qui l'attend à la maison, elle peut pas, il faut pas que quand son mari il arrive, il lui montre des grimaces, il lui montre qu'il est pas bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est dans la cage d'escalier, avant de monter chez lui à la maison, il s'arrangeait, d'accord? Écoutez bien. S'arranger la cravate, etc. Il prenait une profonde respiration. Mais c'est sérieux, ça marche, hein, je vous promets que ça marche. Hein. Il prenait une profonde respiration, d'accord? Et quand il sentait que il a coupé avec ce qui s'est passé quelques minutes avant, là, il rentrait à la maison, zen, relax. Ça prend 5 secondes, c'est rien. Mais c'est une manière de montrer, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait une mitzvah là? Il a rien fait. Il est en train de monter la cage d'escalier pour monter chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a rien fait? Même dans des choses comme ça, on peut être en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Même en train de dire bonjour à quelqu'un qui est dans l'ascenseur, d'accord? Pour montrer que, qui nous cherchait, même en respectant quelqu'un d'autre. Dans chaque élément de la vie, c'est une base du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov disait que la chassidut n'est pas venue, chas v'shalom, pour casser et briser le corps. Chas v'shalom, faut pas briser, casser le corps. Au contraire. Seulement, il faut utiliser le corps pour un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y avait d'autres courants, comme d'autres courants de l'époque, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais il y avait certains courants du Moussar à l'époque, qui disaient qu'il faut casser le corps, il faut briser le corps, parce que le corps nous empêche de nous approcher de la Kadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov a dit non, il faut pas casser le corps. Il faut utiliser le corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et il a amené souvent cet exemple de Rava. Il mangeait de la bonne viande, il buvait du bon vin, un blagueur. Quand tu vas, tu dis, attends, il mange de la bonne viande, il boit du bon vin, un blagueur. Tu dis, ça y est, c'est un kiffer. D'accord? Bon, je voulais pas rentrer dans les stéréotypes. Alors. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Donc, en tout cas.
Tout à l'heure, tu parlais de
allez.
Pas qui fait drogue, mais on peut dire la même chose sur les vêtements, sur les.
Surtout. Donc, Bezrat Hashem dans la suite. D'accord. Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà l'heure. Bezrat Hashem dans la suite, mais c'est une bonne question ce qu'il dit Marcel. Marcel dit qu'en vérité, on retrouve ça partout. D'accord? Même par exemple dans les habits. D'accord? Même dans les habits. Pourquoi une personne s'habille bien? S'il s'habille bien parce qu'il a envie de kiffer, etc. Ou est-ce qu'il s'habille bien parce qu'il a envie d'avoir l'air d'un homme? Et de respecter sa personne? C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Deux choses complètement différentes.
Ça dépend de l'objectif.
Ça dépend de l'objectif, exactement. Et ben, on va voir, vous allez voir qu'on va développer. Et ce que j'aime énormément ce chapitre, parce que ce chapitre, je pense, qu'il peut parler à n'importe quelle personne, et n'importe quelle personne peut trouver dans sa vie des choses qu'il peut utiliser. Regardez, qu'est-ce que j'ai devant moi?
Ah, bonne question. Il l'a pas vidé.
J'ai une bouteille de bourra.
David, il connaît.
D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec une bouteille de bourra? Qu'est-ce qu'ils font les gens avec ça?
Il a pas fait plus.
Il se saoule.
Ouais.
Non.
Et pourtant, qu'est-ce qu'on vient de faire au cours de Tania ce soir? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette bouteille? On a utilisé cette bouteille. D'accord? On a pris un petit peu de dire les chayim pour ouvrir notre esprit.
C'est pas pour se saouler.
Pourtant, on a pris quelque chose avec lequel les gens se saoulent. Alors, comment ça marche?
Parce qu'on
a utilisé les Shem Shamaim. C'est ça les Shem Shamaim.
Non. C'est parce qu'on a utilisé une petite dose par rapport à quelqu'un qui va se
saouler
avec
non.
une grande dose.
Il y a des gens qui prennent pour kiffer.
Si vous prenez une grande dose, ben même si...
Même, je parle pas de la notion saoulé, pas saoulé, je parle de la notion qu'on l'a fait, les Shem Shamaim, on l'a fait pour un cadeau. D'accord. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, et Bezrat Hashem, on terminera le chapitre la semaine prochaine. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui.